Vous écoutez, on lit pour vous.
Garantir la sécurité alimentaire pour lutter contre la pauvreté. Un texte de Lucie Ferré paru le 16 juillet 2023 dans le journal Métro. La consultation publique en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui s'est achevée le 30 juin 2023 dans le cadre de l'élaboration du 4e plan d'action gouvernemental, semble être l'occasion pour plusieurs organismes de remettre la question de l'insécurité alimentaire sur la table. C'est le cas de la Banque alimentaire du réseau d'entraide Verdun, qui dénonce une pénurie de services d'aide alimentaire d'accès universel à Montréal. La consultation publique sur la stratégie de lutte contre la pauvreté est d'une importance majeure, puisqu'elle est l'occasion unique de sensibiliser le public à la réalité de la pauvreté extrême, explique Rudy Svaldi, directeur communautaire du réseau d'entraide Verdun. Ce dernier, avec l'aide de ses bénévoles, a profité de cette période de consultation pour faire la revue des services alimentaires communautaires du Grand Montréal, offrant un service d'accès universel. Ce qu'il constate, c'est une pénurie importante de ce type d'organismes à Montréal. Sur 200 organismes de bienfaisance enregistrés à Montréal, spécifiquement destinés à soulager la pauvreté, moins de 10% d'entre eux étaient à accès universel, affirme M. Svaldi. Les services d'aide alimentaire d'accès universel sont des services offerts sans rendez-vous et sans justificatif pour les situations d'urgence. Avec ce type de service, tout le monde peut donc avoir accès à l'aide alimentaire sans en justifier la raison. C'est ce que propose le réseau d'entraide Verdun, qui est situé sur la rue Wellington. L'organisme d'aide alimentaire ne demande aucun document aux personnes se présentant à la distribution de paniers alimentaires chaque lundi. Quelle preuve faut-il de plus lorsqu'on voit que ces personnes sont prêtes à attendre 2 heures pour obtenir un panier d'épicerie? Demande Rudy Svaldi. Un problème de définition. Dans le cadre de la consultation publique, les organisations québécoises étaient invitées à répondre à un questionnaire et à envoyer un mémoire en lien avec la thématique à l'intention du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Dans le mémoire envoyé par l'organisme d'aide alimentaire de Verdun, plusieurs problématiques ont été soulevées. L'une d'entre elles dénonce la dualité qui persisterait entre la définition d'un organisme à action communautaire et celle d'un organisme de bienfaisance. Notre organisation se situe à la croisée de 2 approches de l'action communautaire. Ce positionnement hybride suscite des interrogations quant à notre identité, explique le directeur communautaire. Cette dualité se serait manifestée en 2011 lorsque l'enregistrement de l'organisation en tant qu'organisme de bienfaisance a été suspendu par le gouvernement fédéral car elle avait intégré des cuisines collectives à son service de dépannage alimentaire. Cela avait été perçu comme une divergence à sa mission de bienfaisance enregistrée. Ironiquement, ce programme était subventionné par la Ville de Montréal, qui voyait l'intérêt d'intégrer les cuisines collectives dans notre approche de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, peut-on lire dans le mémoire. Cette dualité donnerait alors aux organismes une perception limitée de leurs actions. Pour garantir la sécurité alimentaire, il est essentiel de prendre en compte à la fois les aspects à court terme et à long terme de l'urgence alimentaire, croit l'organisme. Pour Rudy Svaldi, il faudrait pour cela reconnaître l'aide aux démunis et arriver à relever le défi de la pauvreté extrême en considérant de manière plus poussée les services d'aide à l'urgence alimentaire. L'enjeu de la pauvreté extrême est plus que jamais d'actualité au Québec. Il faut souligner l'importance de la responsabilité des provinces et des municipalités en matière de lutte contre la pauvreté dans un contexte de crise du logement et d'inflation, selon Rudy Svaldi. l'homme se dit tout de même satisfait de la collaboration qu'il a réussi à obtenir avec l'arrondissement de Verdun dans le cadre d'un projet d'urgence alimentaire visant à développer l'apport en protéines de leur service de panier alimentaire. Ce projet représente un investissement de 37 000 $ pour la municipalité. Repenser la solidarité. Pour Chantal Rouleau, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, cette consultation représente l'occasion de repenser la solidarité. Il s'agit d'un formidable exercice démocratique qui permettra d'influencer le processus décisionnel, a déclaré la ministre. Contacté par Métro, le réseau des banques alimentaires du Québec, BAC, dit également avoir transmis un mémoire dans le cadre de la consultation. Le réseau dessert un panier de provisions à plus de 670 000 personnes chaque mois. Le 7 juillet dernier, l'organisation s'est vue octroyer une aide financière de 20 millions de dollars pour améliorer les infrastructures de son réseau et pour renouveler une partie de sa flotte de véhicules de livraison. Selon le réseau, lutter contre la pauvreté passerait par une amélioration du filet social québécois. Il faut augmenter le pouvoir d'achat des personnes moins nanties grâce à des mesures de redressement de leurs revenus et d'allègement du coût de la vie, peut-on lire dans le mémoire. Pour Martin Munger, directeur général des banques alimentaires du Québec, il n'est pas normal que des personnes à faible revenu puissent souffrir d'insécurité alimentaire. Nous sommes dans une société où l'économie roule à fond. Je pense qu'il faut réussir à mieux se partager les richesses, explique-t-il. Le réseau dit subir une énorme pression causée par l'ampleur du nombre de demandes. En 2022, 62% des organismes du réseau avaient déclaré manquer de denrées. Une rencontre entre les représentants d'organismes québécois et la ministre Chantal Rouleau, en lien avec la consultation, devrait avoir lieu au courant de l'automne prochain. L'insécurité alimentaire en chiffres. Selon les données d'un sondage de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, datant de mars 2023, 24% des adultes québécois vivaient dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire. Avant la pandémie, près de 500 000 personnes se rendaient à une banque alimentaire du Québec chaque mois. En 2022, ce chiffre aurait subi une hausse de 33%, selon le dernier bilan fin. Dans son budget 2023-2024, le gouvernement du Québec a prévu 125 millions de dollars pour soutenir les organismes communautaires et renforcer la sécurité socio-économique des plus vulnérables. C'était « Garantir la sécurité alimentaire pour lutter contre la pauvreté », un texte de Lucie Ferry, paru le 16 juillet 2023 dans le journal Métro.
Les francophones de l'Atlantique, une voix égale, mais pas toujours entendue, un texte de Marine Arnoux, paru le 16 août 2023 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. En Atlantique, les francophones n'ont pas le même poids démographique selon la province où ils se trouvent. Pourtant, les organismes chargés de les représenter l'assurent. Chaque voix compte et chaque voix est égale au sein des instances nationales et régionales. Quand il s'agit de s'affirmer et de défendre leurs droits, les francophones de l'île du Prince-Édouard arrivent-ils à exister face au Nouveau-Brunswick, officiellement bilingue? Émile Galland l'affirme fermement. Les organismes représentant les communautés francophones et acadiennes du Canada atlantique portent d'une seule et même voix leurs revendications à Ottawa. On se bat ensemble pour prendre notre place, être vu et entendu. Chacun peut amener ses points et passer ses messages au fédéral, insiste le président de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, SAF Île. La SAF Île, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, FANE, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, FFTL, et la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, SANB, accordent leur violon au sein de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, FCFA, qui regroupe 21 organisations au total. Tous ces organismes n'ont cependant pas la même envergure. Selon les données du dernier recensement, près de 29,5% de la population a le français pour langue maternelle au Nouveau-Brunswick. Ce pourcentage tombe à 3,0% à l'île du Prince-Édouard, 2,9% en Nouvelle-Écosse et à 0,4% à Terre-Neuve. Chaque organisation porte-parole est membre à part entière avec le même droit de vote, le même poids politique, et ce, quel que soit le poids démographique de la population qu'elle représente, assure Liane Roy, la présidente de la FCFA. Les mêmes enjeux à des échelles différentes. Compte tenu de ce déséquilibre démographique, les communautés francophones hors du Nouveau-Brunswick peuvent bénéficier de moins d'attention, estime quant à elle Michel Landry, professeur de sociologie à l'Université de Moncton et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir. Dit autrement, même si chaque voix compte, celle du Nouveau-Brunswick porte plus. Que ce soit à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve, on vit les mêmes choses à des échelles de taille différentes, réagit Émile Galland. On doit tous travailler fort pour réussir à vivre en français dans un océan anglophone. Le président de la SAF Hill cite pêle-mêle les dossiers de l'immigration, de la santé ou encore de l'éducation en français communs aux populations francophones de l'Atlantique. On est tous pris dans les mêmes combats, à savoir le respect des droits linguistiques et la pérennité de la présence des francophones en milieu minoritaire, abonde Liane Roy. Le mode de fonctionnement pratique de la FCFA tend à responsabiliser chaque province à part égale. Les 21 adhérents se rencontrent 4 fois par an à Ottawa. Ils discutent notamment de l'état d'avancement de leurs dossiers provinciaux à l'occasion d'une table stratégique annuelle. Chaque automne, ils se rendent sur la colline parlementaire à Ottawa. Pendant une journée, ils défendent leurs intérêts auprès des députés et des sénateurs. Ça leur donne la chance de contribuer et d'influencer nos priorités, souligne Liane Roy. Mais en tant qu'organisme national, nous parlons pour l'ensemble de nos membres, à part si l'un d'eux vit une situation de crise. La FCFA s'autorise alors à aborder des enjeux locaux et seulement à ce moment-là. La SNA, plus sur le volet culturel. Les associations francophones de l'Atlantique se retrouvent également au sein d'une autre table de discussion régionale, la Société nationale de l'Acadie, SNA. On a les outils pour mieux se connaître et avoir conscience des réalités des uns des autres. On a plus d'occasions de parler ensemble que d'autres régions du pays. Salut, Émile Galland. Il y a moins de joueurs autour de la table, mais la SNA a perdu son rôle politique depuis les années 1960. Nuance Michel Landry. Elle fait surtout la promotion culturelle de l'Acadie, à l'international notamment. Le conseil d'administration de la SNA réunit la FANE, la FFTL, la SAF-IL et la SANB, ainsi que les quatre associations jeunesse provinciales. La gouvernance et les orientations stratégiques de la fédération sont entre les mains de ses 8 membres, détenteurs du droit de vote. Comme Liane Roy à la FCFA, Martin Théberge, président de la SNA, insiste sur sa volonté d'assurer une représentation équitable des quatre provinces. Chaque membre du conseil d'administration a le même poids. Si on y allait avec un ratio au prorata de la population, ça ne pourrait pas fonctionner. C'est la fameuse devise de l'Acadie, l'union fait la force. Et c'est le principe qui a présidé à la fondation de la SNA en 1881, ajoute-t-il. De fortes disparités provinciales. Cette représentativité qui se veut exemplaire n'enlève rien à la difficulté de défendre les intérêts des Acadiens auprès des gouvernements provinciaux. On est assujetti à leur volonté politique, nos priorités ne sont pas forcément les leurs, et on peut avoir du mal à obtenir des financements pour des événements culturels et des tournées d'artistes, partage Martin Théberge. C'est un travail de sensibilisation de longue haleine. La SNA et la FCFA doivent par ailleurs composer avec de fortes disparités provinciales. À un bout de l'échiquier politique, Terre-Neuve ne dispose d'aucune loi sur les services en français, tandis qu'à l'opposé, le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne officiellement bilingue dotée d'une loi sur les langues officielles. On invite nos membres à faire du lobbying auprès de leurs gouvernements respectifs, car ce sont eux qui connaissent le mieux leur réalité, précise Martin Théberge. On ne veut pas marcher sur leur plate-bande. On préfère travailler en collaboration et partager de l'information. Avec cette même ambition d'améliorer la représentation des communautés francophones en situation minoritaire, la SNA et la FCFA sont en train de négocier un accord pour clarifier leurs liens et leurs mandats respectifs. L'objectif? Éviter toute compétition qui pourrait nuire aux intérêts de leurs membres. Faire connaître l'Acadie ici et ailleurs. L'Acadie n'est pas connue à l'international. Vu de l'étranger, le français au Canada, c'est le Québec. Point à la ligne, tranche Michel Landry, professeur de sociologie à l'Université de Moncton. Même au Canada, la population ne sait pas encore qu'il y a des francophones hors Québec, poursuit Liane Roy. La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, FCFA, est néanmoins convaincue que la modernisation de la loi sur les langues officielles ainsi que le recensement de 2021 ont changé la donne. Plus de gens ont entendu parler de nous. Tout le monde s'est inquiété de la diminution du poids démographique des francophones, estime-t-elle. Mais la FCFA et la Société nationale de l'Acadie, SNA, n'ont pas attendu ces dernières années pour mettre au point des programmes de sensibilisation. Chaque été, la SNA organise des fêtes de l'Acadie partout au pays, de Yellowknife à Ottawa, en passant par le Québec. Je rencontre régulièrement le consul de France à Moncton pour le sensibiliser aux réalités des petites communautés à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, ajoute Martin Théberge, président de la SNA. De son côté, le président de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, Émile Galland, est persuadée que les congrès mondiaux acadiens contribuent à mettre l'Acadie sur la carte du monde. Ça nous fait connaître à l'extérieur. On rappelle haut et fort qu'on existe. Aux yeux de Michel Landry, ce type d'événement concourt aussi à renforcer les liens culturels entre les Acadiens des provinces de l'Atlantique. Les élites acadiennes se connaissent, mais la population en général, pas énormément, considère la sociologue. La FANE, la FFTL et la SANB n'ont pas donné suite à nos demandes d'entrevue. C'était « Les francophones de l'Atlantique, une voix égale mais pas toujours entendue », un texte de Marine Arnoux, paru le 16 août 2023 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Pourquoi le marquage routier ne dure-t-il pas plus longtemps? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 août 2023 dans La Presse. Pourquoi le marquage des lignes sur les routes ne dure jamais longtemps? Réponse à la question d'un lecteur, Luc Ruffiange. Le marquage ne dure que 6 à 8 mois sur les routes fortement sollicitées, explique Michel Saint-Jacques, ingénieur civil à l'École de technologie supérieure. Depuis 2012, on doit utiliser de la peinture à l'eau pour limiter les émissions de composés organiques volatiles, COV, associées aux peintures alkyde. Avant l'interdiction, le marquage routier alkyde durait plus longtemps. Plus précisément, un règlement fédéral imposé à l'époque interdit aux entrepreneurs d'utiliser toute peinture de marquage dont la concentration en COV est supérieure à 150 grammes par litre entre le 1er mai et le 15 octobre. Adopté pour des raisons surtout environnementales, ce règlement limite également la concentration de COV à 450 grammes par litre pour les peintures pouvant être utilisées par temps froid entre le 15 octobre et le 1er mai. En 2008, Madame Saint-Jacques a écrit un rapport sur la durabilité des différentes peintures de marquage utilisées dans les pays riches pour le ministère des Transports du Québec, MTQ. Personne n'a trouvé de solution au problème de la durabilité du marquage routier à base d'eau. On a mis au point des peintures alkyde émettant peu de COV, mais elles durent encore moins longtemps que les peintures à l'eau, précise Michel Saint-Jacques. Même si l'objectif est louable, on voit aujourd'hui que les nouvelles peintures sur le marché ne durent pas aussi longtemps, corrobore l'expert en planification des transports à l'Université de Montréal, Pierre Barriot. On est passé d'environ 2 à 3 ans de résistance à moins d'un an, selon les secteurs, estime-t-il. Sauf que pendant ce temps, les budgets n'ont pas triplé. Il y a un déséquilibre qui est là. Des études scandinaves ont montré que les thermoplastiques, soit des peintures plastifiées émettant peu de COV, durent plus longtemps. Ils sont utilisés notamment dans certains États américains et dans les pays nordiques, dit Madame Saint-Jacques. Par contre, les produits thermoplastiques sont en relief et donc plus sensibles aux opérations de déneigement. Un problème international. Les autres provinces ou les États américains qui ont un hiver comparable au nôtre font-ils mieux? Non, le problème est vraiment international. Même en Scandinavie, ils ont des problèmes. Partout, on fait le marquage à l'automne pour que la qualité soit bonne durant l'hiver parce qu'on a besoin à ce moment de plus de contraste dans le marquage. La peinture jaune réfléchit un peu moins bien la lumière que la blanche. La palme de la courte durée de vie va à la peinture orange, utilisée pour les chantiers de construction. Des représentants du MTQ m'ont dit qu'elle pouvait être de seulement 1 mois sur une route fortement sollicitée, dit Madame Saint-Jacques. C'est une question de chimie. Le MTQ a par ailleurs développé des outils technologiques d'imagerie pour vérifier la réflectivité du marquage routier, afin de détecter les endroits à repeindre plus tôt ou qui peuvent être repeints plus tard que prévu. La chaleur l'humidité et la propreté de la route lors du marquage influencent sa durabilité. Il ne faut pas qu'il pleuve et il faut bien nettoyer la route avant le marquage, dit Madame Saint-Jacques. Une autre information capitale est l'épaisseur des lignes. Si elle n'est pas indiquée dans les plans et devis, un entrepreneur pourrait utiliser le minimum requis par le MTQ pour économiser la peinture. Des plaintes en hausse à Montréal. À Montréal, comme dans plusieurs autres municipalités, le nombre de plaintes, requêtes ou demandes en lien avec le marquage routier suit une tendance à la hausse après une baisse liée à la pandémie. Il faut dire que la direction de l'entretien de l'éclairage de la signalisation et du marquage de la chaussée, EESM, fait face depuis quelques années à une augmentation substantielle du marquage de la chaussée, fait valoir le porte-parole de la ville, Hugo Bourgoin. Que ce soit pour les nouveaux aménagements cyclables ou encore dans le cadre de mesures de sécurisation, comme des marquages de passages écoliers, des chaussées rétrécies par marquage ou du marquage de dos d'âne, par exemple, le ESM a vu sa quantité de marquages croître considérablement, avance M. Bourgoin. Le défi de l'hiver. Pour le MTQ, qui gère un réseau de 90 000 km de lignes au Québec, l'entretien hivernal est l'élément ayant le plus d'incidence sur la diminution du taux de présence, la durabilité et la visibilité de nuit ou rétroflexion du marquage routier, affirme sa porte-parole Émilie Laure. Les équipements de déneigement et l'épandage de sel et d'abrasif usent le marquage au sol. Par conséquent, le printemps est la période où le marquage est le moins présent sur le réseau routier, dit-elle. Le ministère dit toutefois viser une amélioration constante de la présence et de la visibilité du marquage. Marquage incrusté. Sur les routes où plus de 50 000 véhicules par jour circulent, par exemple, le marquage est incrusté, en ce sens qu'il est rainuré mécaniquement dans la chaussée, le protégeant du déneigement et du passage des véhicules. Pour les nouvelles chaussées de béton, le contraste entre le marquage et la surface de la chaussée est accentué en utilisant un produit à base de résine époxydique bicouche. On utilise également ce type de peinture pour rafraîchir les lignes au sol dans des secteurs très sollicités par la circulation automobile. C'était « Pourquoi le marquage routier ne dure-t-il pas plus longtemps ?» un texte de Mathieu Perrault paru le 20 août 2023 dans « La Presse ».